submarine, yellow submarine.
And our friends are all... Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
And the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
À la fin de cette année 2020, un petit peu troublée, et au début de celle qui commence, qui s'annonce aussi un peu mouvementée, beaucoup de personnes vivant en Dordogne, venant du Royaume-Uni, se demandent ce qu'elles vont devenir. Et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir parler de ces problèmes avec Roger. Roger qui est originaire aussi du Royaume-Uni et qui s'occupe justement du sort de ses compatriotes qui souhaitent vivre en France, qui vivent pour certains depuis de nombreuses années ou qui souhaitent venir y vivre. Roger, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Libre en Périgord. Qu'est-ce que c'est que l'association dont vous vous occupez ?
Bien le bonjour et bonne année aux personnes qui nous écoutent. Oui, en effet, ce que je m'occupe, et je suis président d'une association qui s'appelle le Franco-British Network, qui s'occupe justement d'aider les Britanniques à s'installer et à vivre confortablement dans cette magnifique contrée qu'est la Dordogne.
Alors vous-même, Roger, qui avait un accent français magnifique, vous êtes fixé en Dordogne, où vous vivez en France, depuis combien de temps ?
Alors depuis, je pense que c'est pour ça qu'on me demande toujours où j'ai appris le français. Ben je l'ai appris en Dordogne, en principe en tout cas, puisque ça fait maintenant 28 ans que je vis ici, et que pendant un bon nombre d'années, j'étais responsable des écoles, une après l'autre, des écoles de la Chambre de commerce, donc d'abord l'école hôtelière du Périgord, et puis ensuite l'école de Savignac.
D'accord. Alors l'école de Savignac, si vous voulez bien rappeler à nos auditeurs ce que c'est, cette école internationale de management hôtelier, hein, je crois.
Voilà, vous avez tout à fait raison, c'est une école internationale maintenant. J'ai beaucoup participé à créer cette école au niveau international, justement par le fait que j'avais été formé moi-même à l'école de Lausanne en Suisse, et ensuite j'ai fait une carrière d'hôtellerie et de restauration en Grande-Bretagne avant de venir m'installer ici en Dordogne. C'est une école aujourd'hui qui est bien bien connue au niveau européen et qui produit des éléments importants de management pour l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.
Alors, si je ne suis pas indiscret, est-ce que vous êtes encore en activité ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous préoccuper comme ça du sort de vos compatriotes en Dordogne ?
Alors, c'est très simple en réalité. Je devais prendre ma retraite de l'école de Savignac, ça s'est fait tout à fait normalement pour partir à la retraite. Et sur une discussion avec Pierre Vulin, qui est directeur général de la Chambre de commerce, et Christophe Fauvel, qui est le président de la Chambre, ils m'ont demandé si je voulais bien ne pas prendre ma retraite et que je m'occupe d'une partie importante de l'économie de la Dordogne, qui sont ni plus ni moins les Britanniques qui y vivent.
Voilà.
Donc j'ai accepté ce poste, d'abord en travaillant avec la Franco-British Chambre de commerce et d'industrie qui est établie ici en France, mais après on a changé ça en 2019 pour devenir la Franco-British Network, qui est une association 1901, mais nous travaillons en collaboration très étroite avec les deux chambres, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, ainsi bien entendu que la préfecture de la Dordogne.
Alors, on rappellera à la fin, pour les auditeurs, où sont situés vos bureaux, mais vous l'avez déjà laissé supposer, c'est-à-dire que vous êtes installé, vous avez une permanence qui est installée à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne.
Alors, on n'a plus de bureaux, on est devenu très moderne depuis l'arrivée du Covid.
Donc j'ai bien fait de parler de permanence alors. De permanence
tout à fait, c'est une permanence qui est ou téléphonique ou par email. Et on travaille tous, toute mon équipe, on travaille depuis chez soi, à la maison. On fait du home working et ça marche très très bien. J'ai dû m'y habituer, c'est pas quelque chose dont j'avais l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, avec tous les méthodologies modernes, on s'habitue à ce genre de travail et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est pas si mal que ça et on gagne énormément de temps puisque moi j'habite au nord du département dans un village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Frugy que vous devez connaître pour la partie écologique.
Bien sûr.
Et donc j'ai plus besoin de me déplacer plus d'une heure pour aller à mon bureau qui était, comme vous l'aviez dit, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne.
Alors, aussi pour renseigner nos auditeurs au mieux, quel est l'effectif actuel ? Est-ce que vous connaissez l'effectif, d'une manière précise, des Britanniques vivant en Dordogne ?
Alors ça, c'est la question que je déteste le plus, puisqu'on n'est pas capable aujourd'hui, encore aujourd'hui, de vous donner un chiffre exact.
Même à la louche, comme on dit en français ?
À la louche, on peut vous le donner, ça tourne autour des 10 000.
Oui. Oui, parce que moi j'ai entendu des chiffres très 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 variables aussi. Effectivement.
Voilà, exactement. Pendant le dernier recensement fait par l'INSEE, on était, je crois, à 7 000-8 000, mais je me prends comme un cas de figure. Pendant ce recensement, moi j'ai jamais été interrogé. Donc voilà, déjà deux personnes de plus qu'il faudrait mettre sur le recensement comme étant britannique et installé ici en Dordogne. Donc s'il y a moi, il y a aussi les autres.
Ouais.
Donc on pense que le chiffre est quand même bien plus élevé que celui qui a été donné par l'INSEE.
D'accord, parce qu'effectivement, j'ai une fourchette qui était entre 7 et 13 000, alors c'est
voilà,
large.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a déterminé ? Alors, sur cet effectif, quelle est la partie qui vraiment adhère à votre association, ou bien est-ce que vous vous intéressez uniquement aux gens qui désirent s'installer et qui ont recours aux services de l'association ? Quels sont les services que vous proposez ?
Alors, l'association a plusieurs antennes, si vous voulez. Elle s'occupe de gens qui arrivent et qui ont la problématique administrative de s'installer en France. Et comme je n'ai pas besoin de vous le dire, je suis certain, vous savez, les systèmes français administratifs sont souvent compliqués.
Oui.
Donc, tout le monde le sait, et bon, c'est comme ça.
Donc chacun a ses petits défauts. Hein.
Voilà, il faut bien des défauts dans chacune de nos nationalités, donc de notre culture. Donc on aide ces personnes-là, mais une fois qu'elles sont installées, ils ont aussi encore des autres questions, donc ils sont membres et on les aide aussi sur des questions multiples et variées. Ça dépend ce qu'elles peuvent nous poser. Et on a aussi une partie, disons, plus sociale, plus networking, c'est-à-dire les gens, on tient des manifestations, des événements où on visite, par exemple, une production de truffes ou une production de foie gras.
Vous avez un côté initiation à la culture locale.
Tout à fait, je pense que c'est important. Mais la raison principale que j'ai accepté la proposition de la Chambre, c'est vraiment que ma famille et moi-même, on a été tellement bien reçus en Dordogne quand on est arrivé il y a, je vous dis, 28 ans en arrière, que j'ai voulu remettre un peu quelque chose dans la barrique, aider les autres gens à s'installer ici et surtout... je pense qu'il faut vraiment pas qu'on l'oublie, surtout dans ces temps difficiles. La partie britannique de la Dordogne est une partie importante sur l'économie de cette contrée.
Ah, assurément, avec un effectif comme ça. Mais est-ce que vous encouragez, alors une question tout à fait qui est relative aussi à l'intégration culturelle de cette population. Est-ce que vous encouragez vos compatriotes à apprendre le français ?
Alors, c'est une chose qui vient naturellement vers eux, certains avec beaucoup plus de difficultés que d'autres, mais avec l'aide justement des chambres de commerce, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers, on a, et des écoles de la chambre, on a mis en place des cours de français, donc qui sont parfois très peu chers, et on utilise aussi je pense que tout le monde se connaît, c'est ce que c'est le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage à distance par voie d'internet. Donc ça c'est très utile parce que la problématique de la Dordogne qui se reflète de plusieurs manières, c'est le fait que géographiquement c'est un grand espace. Donc si vous faites une formation à Périgueux et puis vous demandez quelqu'un de venir du nord du département, ils en ont pour une heure et quelques pour rentrer. C'est la même chose du sud. Oui. Donc le système, comme je vous ai dit, de travailler depuis la maison par via Internet ou de prendre des cours de français via Internet, c'est vraiment très très utile pour quand vous vivez en Dordogne.
Est-ce que vous avez une idée du profil des parages de cette population ? Quelle est la part de cette population, autrement dit, qui est encore en âge d'avoir des enfants scolarisables ? Et quelle est la part des gens qui sont des retraités, qui sont un petit peu dégagés de toutes ces obligations familiales ?
Alors, les pourcentages jusqu'à environ 2018, quelque chose comme ça, étaient vraiment probablement entre 50 et 60% de retraités. Mmh. Aujourd'hui, ce chiffre diminue. Et on voit venir s'installer des Britanniques qui ont, comme vous dites, de la famille, qui sont mariés, qui cherchent à établir des petites entreprises, comme souvent micro-entreprises, dans des secteurs d'activité multiples et variés. Il y a des peintres, il y a des producteurs de vin, il y a tout et son contraire qui viennent s'installer ici. Alors la prochaine question que vous allez me poser, c'est pourquoi ? Eh bien, moi je peux vous dire pourquoi. C'est simplement qu'on y vit tellement bien en Dordogne,
oui,
que c'est une région très attractive. Il fait un peu meilleur au niveau climatique qu'en Grande-Bretagne. On a des produits au niveau gastronomique, il y a des vins qui se rapprochent des plus grandes régions françaises viticoles. Et on a un environnement social et économique qui est formidable. Et en plus, la dernière chose qui les attire vraiment, c'est le système de couverture de santé.
Oui, alors, tout ce que vous me dites là, c'est quelque chose qui est de notoriété presque publique. Mais en réalité, derrière cette image de carte postale, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le Brexit a provoqué ces 4 années difficiles qu'on vient de vivre et puis qui se sont terminées brutalement ? Est-ce que vous pensez que ça va susciter un nouvel afflux de Britanniques en France ? Ou au contraire, retour des Britanniques vers le Royaume-Uni ?
Alors je pense qu'il faut que nous fassions ceux qui sont impliqués dans les travaux qui sont nécessaires pour que l'environnement de la Dordogne au niveau économique ne souffre pas trop. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde comment on travaille pour que ces personnes britanniques veulent encore venir ici, même avec la difficulté supplémentaire de ne plus faire partie de l'UE. Je crois que c'est absolument important et j'ai préparé, je sais que mon président de la Chambre a été interviewé par un journal très récemment et il m'a demandé mon avis là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde cette difficulté supplémentaire de très près. Je pense que la région dans laquelle nous habitons, la Dordogne et plus large, la Nouvelle-Aquitaine, doit considérer ça comme un business, hein, presque.
Oui,
c'est de faire le nécessaire pour que ces gens continuent à être attirés par notre région, qui est une région formidable, mais bon, ça cause quand même une difficulté supplémentaire qui n'existait pas avant. Avant, il n'y avait même pas besoin d'une carte de séjour. Vous viviez ici comme n'importe qui d'autre, sans difficulté. Aujourd'hui, il faut passer par le système d'une carte de séjour ou d'un visa plus tard. Tout ça, notre association s'en occupe. Hein. On a des helplines qui font que les Britanniques peuvent nous contacter et on va les aider. Donc nous, on a déjà mis en place certaines choses. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et donc je pense qu'il faut que des institutions comme les chambres, la préfecture et d'autres se mettent en collaboration et qu'on regarde ça de très près pour que ça n'influence pas au niveau négatif l'économie de notre région.
Oui. Mais alors vous avez évoqué la naissance et le développement des petites entreprises gérées par des Britanniques, dirigées par des Britanniques, installées en Dordogne. Vous avez parlé de la relative étendue du département et de son caractère un petit peu sous-peuplé par rapport à son étendue. Vous avez élargi même le propos à l'ensemble de la région de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que cette région de Nouvelle-Aquitaine, c'est un espèce de front pionnier, ça peut devenir un espèce de front pionnier pour les gens qui ont décidé d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte?
Alors je pense qu'il y a d'autres régions en France qui ont toujours attiré les Britanniques. Il y a la région Normandie et Bretagne, bien entendu, parce que c'est proche de... Mais des gens viennent en Normandie et en Bretagne pour d'autres raisons, parce que c'est pas très loin, c'est sur la côte, etc. Nous on attire un autre public, disons. Un public qui cherche autre chose que la mer et être proche de la Grande-Bretagne. Donc je pense que oui, il faut regarder peut-être bien, comme vous dites, avec d'autres régions, quel est le système le plus avantageux pour ces régions pour continuer à attirer les Britanniques et qui viennent s'installer sans crainte et sans difficulté afin que la partie économique ne souffre pas.
Est-ce que de la position que vous avez, qui est quand même privilégiée par rapport à l'économie du département, son évolution, est-ce que vous avez l'impression que l'insertion dans le tissu économique des Britanniques se fait facilement? Toutes choses égales d'ailleurs, bien entendu, pour les difficultés bureaucratiques, administratives que vous avez évoquées justement en déplorant sa complexité, mais qui est, vous le savez, pratiquement aussi complexe pour les nationaux.
Alors avant de répondre à cette question en direct, je dois quand même rappeler la situation de la carte de séjour. Le gouvernement français a tout fait pour faciliter l'obtention ou le changement de la carte de séjour des Britanniques qui étaient résidents ici avant le 31 décembre 2020. Mais vraiment tout fait. Le système a été simplifié, le système est sur Internet, est en anglais. Donc on voit qu'il y a une compréhension du gouvernement français à vouloir aider et à faciliter les choses pour que les Britanniques ne partent pas en masse. Donc ça, c'est la première chose. Mais je pense que le système administratif doit évoluer aussi. On doit, nous, se mettre en ordre de marche pour aider ces Britanniques qui voudront encore venir. Et la complexité, il n'y a pas seulement la carte de séjour, il y a le permis de conduire, il y a les différences de santé, il y a la retraite, il y a un tas de choses. Et donc, on pousse, nous aussi, puisqu'on a eu, le Franco-British Network a eu une dotation du gouvernement britannique, pour le coup, pour que l'on puisse financièrement, une petite association comme la nôtre a besoin de financement pour pouvoir avoir ces helplines et quand même donner une petite rémunération aux personnes qui s'en occupent. Ils nous ont donné une dotation qui nous permet d'aider encore plus les Britanniques. Et je pense que ça, il faudrait que ça continue. Donc il faut un arrangement entre les deux gouvernements pour que ça ne s'arrête pas.
Que ce système continue, oui. Oui. Et ça vous paraît possible, ça vous paraît plausible, parce que bon, ce qui existait dans le système précédent, lorsque le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, qui vient de se terminer, ça va rendre objectivement beaucoup plus complexe la situation des Britanniques qui choisissent de rester britanniques et qui décident de vivre en France. Comment ça va se passer là pour eux?
Alors moi je mets beaucoup d'importance sur ce qu'on appelle l'entente cordiale. Il y a toujours eu entre notre peuple et nos cultures des arrangements et des façons de faire les choses qui sont bien entendu différentes. On est culturellement différent, mais on a toujours su en moment des difficultés, et Dieu sait qu'on en a eu la première et la deuxième guerre mondiale, etc. On a toujours su s'arranger. Et moi, je crois que ça, j'y crois beaucoup. Ça va continuer, ça va pas s'arrêter comme
donc,
ça.
Donc,
c'est pas possible.
Vous êtes optimiste et vous anticipez une normalisation progressive de la situation qui a été créée par le Brexit. C'est bien ça.
Tout à fait. Ça va prendre quelques années. Ça va pas être fait en 5 minutes. Hein. Faut pas croire que parce qu'il y a eu un traité de signé que c'est la fin et tout va bien et tout est rose. Non, pas du tout. Mais il y a une volonté sincère et concrète des deux côtés pour que ça fonctionne. Et si déjà la Chambre de la Dordogne a décidé d'avoir un Britannique au sein de leur organisation, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont bien compris que économiquement c'est important. Et il y a d'autres régions en France qui sont pareilles. Donc je crois qu'il faut il faut être optimiste. Il faut vouloir que nos peuples restent dans une entente cordiale qu'on a toujours eue, sans se faire trop de soucis. Il faut voilà. Après, ça va se faire dans les années qui viennent.
Qu'est-ce que vous pensez, Roger, du fait qu'un certain nombre de Britanniques décident d'opter pour la nationalité française? Est-ce que c'est un conseil que vous leur donneriez, ou bien est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux qu'ils conservent leur nationalité d'origine en anticipant le fait que tout va se rentrer dans l'ordre progressivement?
Alors, il y a plusieurs choses à ce niveau-là, mais c'est vraiment une réflexion qui est la mienne, qui ne sera pas celle de tout le monde. Moi, je pense que quand vous prenez une deuxième nationalité, puisqu'on parle bien de binational, hein, donc vous gardez votre nationalité britannique et vous prenez aussi la nationalité française. Donc ça, c'est quand même un avantage important, parce que vous perdez pas votre nationalité de base. Mais pour faire ça, il faut vraiment avoir une compréhension de ce que vous faites. On ne prend pas une nationalité comme ça à la légère.
Bien
et c'est
sûr.
Pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le système français, qu'on vérifie que les personnes qui veulent cette binationalité, et on en a déjà parlé, parlent le français à peu près correctement quand même, qu'ils comprennent l'histoire de la France, etc. Et qu'il n'y a pas seulement une envie d'avoir une binationalité pour des raisons économiques et avantageuses personnellement. Il faut que ça soit plus que ça, à mon avis. Parce qu'autrement, c'est uniquement pour faciliter la partie administrative. Ok, ça a une importance aussi, mais je pense pas qu'il faut que ça soit pas la raison principale. Il faut qu'il y ait plus que ça derrière. Donc pour ma part, j'arrive enfin, je dis ça depuis des années, en fin de carrière, donc je vois pas la nécessité. Je suis très content avec ma nationalité britannique, même dans la situation d'aujourd'hui. J'ai fait ma demande de renouvellement de ma carte de séjour, elle m'a été octroyée, donc voilà, moi j'ai pas de problème, j'ai ma retraite qui tombe.
Oui, mais vous êtes dans une situation idéale vis-à-vis des autorités françaises, vous parlez français mieux qu'un français, vous êtes complètement investi dans le fonctionnement des structures économiques de l'endroit où vous vivez, et c'est pas le cas de tous les Britanniques. Un des reproches que font les Français souvent aux Britanniques qui sont installés en France, en Dordogne en particulier, c'est d'être là depuis 20 ans et de ne pas parler un mot de français.
Ça, c'est une difficulté culturelle. Hein. Malheureusement, là, on aurait pu changer les choses. C'était si on avait pu avoir l'Esperanza comme
L'espéranto, comme, oui, l'espéranto.
Oui, comme langage.
Langue véhiculaire, oui. Langue.
Pour tout le monde, cette possibilité a été remplacée par l'anglais. En tout cas, bon, maintenant, il y a le mandarin qui se pointe à l'horizon. Mais l'anglais a toujours été, depuis des siècles, la langue dont tout le monde devait savoir parler. Donc les Britanniques ont toujours eu cette fausse idée qu'une langue, c'était seulement la langue, c'était seulement un système de communication. Bien non, c'est pas seulement un système
de communication. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une culture, c'est une connaissance de l'environnement dans lequel cette langue est parlée, etc. Donc ça, oui, c'est un problème que l'on a. On essaye de le régler avec des cours très peu chers de français pour les Britanniques. Mais bon, il y a toujours cette difficulté qui existera et qui restera parce que les Britanniques pensent que l'anglais, ben c'est voilà, tout le monde devrait le parler parce que c'est la langue internationale.
Et puis
on n'aura pas changé ça, ça n'ira pas beaucoup mieux. Mais je dois dire que les écoles en Grande-Bretagne aujourd'hui font quand même des efforts pour qu'il y ait pas aussi bien qu'en France, je l'avoue fort bien sûr, mais ils essayent quand même que les jeunes apprennent au moins une autre langue, oui. Que ce soit l'allemand, l'espagnol ou bien entendu le français.
Non, et puis il faut compter sur l'effet qu'aura la scolarisation des jeunes élèves d'origine britannique en France.
Alors ça, je peux vous dire, ça marche très bien.
C'est ça qui va sauver les choses, quoi. Alors, comme nous approchons de la fin de cet entretien, Roger, je voudrais que vous rappeliez le nom et surtout les coordonnées du Franco-British Network, de manière à ce que nos auditeurs, éventuellement, qui ne connaîtraient pas cet organisme, puissent s'y adresser.
Alors, c'est très simple, hein, c'est www.francobritishnetwork.fr. Voilà notre site internet. Vous allez sur le site internet que vous allez retrouver et vous allez trouver les coordonnées email et téléphoniques de notre association. Même si vous n'êtes pas britannique mais que vous vous intéressez à cette binationalité, à cette biculture français-anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Comme vous le voyez, on a des gens qui parlent bien le français, donc vous ne serez pas en difficulté de communication.
Merci beaucoup. Et pour terminer, comme je le fais traditionnellement dans cette émission, je voudrais quand même vous demander si vous avez d'autres préoccupations que le sort de vos compatriotes et leur bon accueil et leur bonne installation en Dordogne. Est-ce que vous avez des hobbies? Est-ce que vous avez des violons d'Ingres, comme on dit en français?
Alors, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent et j'ai beaucoup de passés qui ont fait que c'était lié au sport. Mais à mon âge, il y a certains sports qui sont plus possibles. Et si vous demandez à ma femme, elle vous dira concrètement que je fais beaucoup trop pour notre association et pas assez pour s'occuper de mes plaisirs autres que mon petit-fils. J'ai la chance qu'il vive tout près de chez nous, donc on peut le voir régulièrement, contrairement aux autres qui vivent ou en Suède ou en Grande-Bretagne. Mais les sports qui m'intéressent toujours, et il y en a un en particulier, c'est toute la partie jardinage. Et on a une propriété ici qui nous permet d'avoir des légumes frais, etc. Et aussi, je continue à aimer à jouer au golf. C'est un de mes passe-temps qui était un passe-temps professionnel à un moment donné en Angleterre et qui reste quelque chose que j'aime bien faire.
D'accord. Et vous avez à proximité de Saint-Pierre-de-Frugier la possibilité de...
Bah, malheureusement pas.
Non, ça doit être difficile, là, quand même.
Oui. Ou Périgueux.
D'accord. Roger, merci beaucoup. Merci de la clarté de vos explications. Vous êtes cordialement invité à visiter notre studio qui se trouve à Coulounier.
Merci.
Vous avez, il me semble vous avoir donné l'adresse de notre site.
Tout à fait.
Donc, encouragez vos compatriotes à aller sur notre site. Vous savez que nous avons une émission de musique qui est faite de musique britannique, qui est faite par un Britannique. mais vous pourrez l'écouter, vous pourrez trouver des podcasts de cette émission. Je crois que ça s'appelle Johnny Be Good ou quelque chose comme ça.
C'est très bien.
Voilà. Merci encore et à bientôt peut-être.
Merci à vous et à très très bientôt.
Merci. Au revoir.
Bonne journée, au revoir. Au revoir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. You're showing out. You look for trouble, turn around, give me a shout.